On a évalué l'impact de nos chirurgies chez nos patients masculins. L'habillage, le regard des autres, l'image de soi, la confiance en soi, la confiance au travail. Et on a trouvé qu'en moyenne, sur tous les critères, avant la chirurgie, la plupart d'entre eux étaient autour de 30-40%. Et tous étaient à 100% en post-opératoire à 6 mois. Ça se traduisait dans plein de secteurs de leur vie. Et quasiment toutes les personnes qu'on opère, sans exception, nous disent « Mais ouais, c'est incroyable, tout a changé, je m'habille différemment, je suis plus serré dans mes chemises, j'ai l'impression qu'on m'écoute plus, que je suis plus respecté. »
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Alexis.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Écoute, très bien.
Eh bien écoute, parfait. Je suis vraiment content de t'avoir ici avec nous sur le podcast Le Déclic. Je vais rapidement te présenter comme j'ai l'habitude de le faire pour chacun de nos invités. Donc je suis avec Dr Alexis Delobo. Tu es entrepreneur à multicasquettes. Tu es également chirurgien plasticien de renommée avec plus de 10 ans d'expérience. Fondateur de The Body Contouring Academy, leader international en formation de body contouring, inventeur de The Sculptor, également révolutionnant la technique de liposculpture, t'es investisseur, t'es aussi porte-parole d'une ONG, pionnier et initiateur de différentes techniques en chirurgie plastique. On parle aujourd'hui de plus de 2000 patients traités, plus de 100 chirurgiens formés. Ton impact donc sur l'industrie de la chirurgie plastique est indéniable, mais aussi ton parcours entrepreneurial est assez riche, assez diversifié. On va pouvoir en parler au travers de toutes ces expériences. Donc, je suis super content de t'avoir ici. Avant que je démarre avec les différentes questions que l'on a préparées, j'ai envie de mettre en lumière, comme je le fais à chaque fois, un de nos auditeurs qui nous a mis justement un avis sur Apple Podcast et 5 étoiles. Donc, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière le commentaire de Victor qui nous dit « Je suis dans une période difficile de mon aventure entrepreneuriale et d'écouter des entrepreneurs bien plus compétents et bien plus expérimentés que soi avoir aussi des moments difficiles, ça rebooste et ça redonne la pêche et donne envie de toujours s'accrocher. Merci beaucoup pour le partage de ces témoignages. » Merci Victor pour ton retour et merci à tous pour vos retours. On va faire en sorte que cet épisode avec Dr Alexis soit aussi enrichissant que les précédents. Merci Alexis d'être présent avec nous. J'ai envie de démarrer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Ça fait du coup maintenant plus de 10 ans que tu es spécialisé dans la chirurgie plastique. Avant toute chose, pourquoi se spécialiser dans ce corps de métier, si j'ose dire, ou dans cette spécialité ? Pourquoi ce choix ?
Écoute, merci Alec de me recevoir. Plaisir grandement partagé. Alors pour répondre à ta question de la manière la plus exhaustive, on va dire, faut partir un petit peu dans l'histoire de ce qui m'a conduit à faire de la chirurgie plastique. Pendant mes stages de ce qu'on appelle nous l'externat, hein, c'est en gros tes 6 premières années d'études de médecine où tu as des stages divers et variés dans toutes spécialités confondues, qu'elles soient des spécialités de médecine comme la cardiologie, la réanimation, la néphrologie, les urgences, ou des spécialités de chirurgie comme la chirurgie digestive et aussi parfois la chirurgie plastique. J'ai eu la chance, en fait c'est une histoire de rencontre, j'ai eu la chance de tomber sur des chirurgiens de la main qui étaient adorables, qui m'ont pris un petit peu sous leur aile, avec qui on a un peu sympathisé, et qui travaillaient à l'époque dans un des centres SOS main les plus importants de France, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, du côté de Lille, et qui me prenaient avec eux sur leurs interventions, et qui faisaient énormément à l'époque de microchirurgie. C'est un centre très, très reconnu, un centre pionnier pour la microchirurgie. D'ailleurs, un des fondateurs de ce centre, ça a été une des personnes qui a lancé la création de tous ces centres spécialisés en chirurgie de la main. C'est un chirurgien qui s'appelle le Dr Skoff, qui est un pionnier de microchirurgie, un génie de la microchirurgie. Et en fait, ça a été une révélation. C'est-à-dire que j'étais avec eux, j'opérais avec eux sous microscope. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, absolument incroyable en termes de prouesse technique et également en termes d'intérêt sur le plan ludique. C'est-à-dire que c'est une chirurgie qui est très intéressante parce qu'elle est, elle est différente chaque jour et même chaque heure, parce que dans ces centres, tu reçois des gens qui sont souvent des travailleurs, donc des agriculteurs, des gens qui travaillent à l'usine, ou alors des gens qui ont des accidents de la vie quotidienne. et tu vas réparer en fait les nerfs, les tendons, les artères, et tu vas avoir cette espèce de d'hypertechnicité et d'hyper savoir entre guillemets dans un domaine bien précis qui est la chirurgie de la main, et qui est passionnant, parce qu'en termes d'anatomie c'est hyper riche, et en termes de variété de ce que tu vois au quotidien, c'est absolument incroyable. Donc moi je suis tombé amoureux de cette chirurgie, et en fait quand tu veux faire ça, quand tu veux devenir chirurgien de la main, tu as deux options. Soit tu fais un cursus de chirurgien orthopédique, donc c'est les chirurgiens qui font la hanche, le genou, l'épaule, le pied. Soit tu fais un cursus de chirurgien plasticien. Et moi, je ne me voyais pas trop être chirurgien orthopédiste pour plein de raisons. La plastique, ça collait plus un peu à ma vision, on va dire, de mon quotidien, on va dire, après, dans sa globalité. Pour plein d'autres raisons qui sont familiales aussi, parce que moi j'ai un père sculpteur, donc quand j'étais enfant, je passais ma vie dans son atelier à le regarder sculpter des corps, mouler des gens, etc. Et du coup, ça répondait à mes deux besoins. D'abord, la curiosité intellectuelle sur la partie chirurgie, microchirurgie, et puis le côté un petit peu sensibilité artistique qui m'a été légué par mon père dans mes jeunes années, et la chirurgie plastique, ça répondait à ça en fait.
Ok, très clair. Très, très, très intéressant. Et à quel moment, justement, il y a eu cette transition entrepreneuriale où tu passes du monde de la chirurgie au monde de l'entrepreneuriat et tu viens marier ces deux mondes?
Eh bien, écoute, tout dépend ce que tu mets derrière entrepreneuriat, mais en gros, quand tu sors du système hospitalier classique, on va dire de l'hôpital public qui est indispensable, hein, pour ta formation et qui est une ressource incroyable en termes de connaissances, et que tu t'installes à ton compte et que tu es médecin libéral, eh bien, tu es en prise directe avec tout ce à quoi est confronté un entrepreneur en général, tout tropisme confondu, j'ai envie de dire, hein, que ce soit un infopreneur ou un entrepreneur dans la vie réelle. Tu as tes salariés, tes charges à gérer, tes projections de trésorerie, tes projections de croissance, tes projets, etc. Et disons que dès que tu t'installes en libéral, tu te prends le mur administratif déjà en pleine face, comme beaucoup d'entrepreneurs en tout genre. Donc ça a été le premier pas, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Et souvent, tu te ramasses un petit peu, et c'est ce qui m'est arrivé comme beaucoup de gens. Et puis après, il y a eu cette deuxième plongée, on va dire, un peu plus profonde dans l'entrepreneuriat, quand j'ai monté quelque chose qui était alors toujours connexe, hein, avec la chirurgie plastique, hein, c'est ce dont tu as parlé au début, c'est The Body Contouring Academy. Et donc là, je suis passé sur une partie de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas, qui est l'organisation, la création de formations, à la fois en présentiel, à la fois online, avec tout ce que ça suppose en termes de connaissances infopreneuriales que je n'avais pas du tout, parce que ce n'est pas ce qu'on t'apprend à la fac de médecine en général, et qui a été une énorme claque aussi, parce que je n'avais aucune connaissance en la matière. Et heureusement, j'ai pu me faire accompagner par des gens hyper compétents que je remercie encore à l'heure actuelle. J'ai trouvé une équipe absolument incroyable et formidable qui m'accompagne encore aujourd'hui et qui fait un boulot que je souhaite saluer et souligner, et qui est corps et âme dévoué à ce magnifique projet qu'on a ensemble. Donc ça a été le deuxième pied dans le deuxième plongeon plus profond, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Ça a été la création de cette Académie internationale de chirurgie qui est aujourd'hui, on peut le dire, un numéro 1 en formation en chirurgie de la silhouette.
Justement, cette Académie, tu l'as créée en 2022.
C'est ça.
Qu'est-ce qui te pousse à la créer?
Écoute, alors encore, c'est une histoire de rencontre. En 2022, je me rends à Vegas pour un congrès de chirurgie esthétique un petit peu intimiste. C'est-à-dire que les congrès de chirurgie esthétique, en général, c'est des grands amphithéâtres avec beaucoup de monde, 1000, 2000, parfois 15 000 personnes. Et il y en a dans tous les sens. C'est une espèce de supermarché de la chirurgie et de la médecine. Et là, ça a été quelque chose d'un peu différent. C'est un congrès un petit peu plus petit. On était 150, 200 personnes. Donc pendant 2-3 jours, tu as le temps de connecter avec les gens, tu as le temps de leur parler, tu as le temps de connecter avec leur business, leur propre histoire, et d'avoir des échanges un peu plus longs, on va dire, et tu arrives à rentrer un peu plus deep dans leur business, dans leur quotidien. Et là, c'était hyper intéressant parce que je n'avais jamais fait de congrès à Vegas, je n'avais jamais présenté en anglais à l'américaine sans prompteur, sans script. Donc ça a été une expérience super enrichissante. Et en rentrant de Vegas, je me suis dit, mais il y a un truc à faire en chirurgie de la silhouette en Europe. fait, j'ai fait le constat, si tu veux, après m'être vraiment hyper spécialisé dans ce domaine, qu'il n'y avait pas de formation en Europe. En tout cas, pas de formation quali au sens où moi, je l'entendais. Et au travers des rencontres que j'ai pu faire sur place, notamment avec un collègue américain qui fait exactement ce que je fais, je me suis dit, mais tiens, il y a plein de gens qui seraient hyper heureux de pouvoir accéder à cette connaissance avec plein de speakers différents, plein d'experts différents, ramenés en un seul endroit pendant 3 jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter et à trouver des experts qui étaient super bons dans leur domaine, mais qui n'étaient pas en France, qui étaient aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans d'autres pays d'Europe. Et c'est comme ça qu'est née la Body Contouring Academy. En fait, je me suis dit, mais quelle serait la formation que moi, j'aurais aimé avoir quand je me suis formé? Et en fait, j'ai pris tous les pain points, si tu veux, que j'ai rencontrés quand je me suis formé et que j'ai fait un peu mon tour du monde des meilleurs dans mon domaine. Et je les ai tous ramenés au même endroit, si tu veux. Donc, c'est en gros, je me suis replongé dans toutes les difficultés que j'avais rencontrées et tout ce à quoi ne répondait pas mon parcours de formation que j'ai fait, que je me suis organisé tout seul. Et j'ai essayé de tout ramener en un seul endroit sur 3 jours.
Ouais, hyper intéressant. Finalement, on dit souvent que c'est pas forcément la bonne chose que de créer le produit qu'on aurait voulu avoir sur le marché, mais finalement, si le signal du marché, c'est aussi le même que le tien et que ton ressenti, et vraisemblablement, vous avez clairement un product market fit avec cette académie, bah ça peut l'être.
Ouais.
C'est pas anodin, finalement, de lancer une académie dans ce domaine. J'imagine qu'il y a des réglementations, il y a aussi peut-être... Peut-être un scepticisme ambiant du marché sur le domaine où il se dit les gens peut-être se disent mais c'est pas une université, mais c'est différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir pour apprendre et acquérir de telles compétences qui sont liées au domaine du médical. Comment est-ce que tu as surmonté ces différents challenges si tu les as eus?
Alors, je compléterai ce que je viens de te dire en te disant qu'en fait, j'ai pas uniquement basé le programme et le on va dire le contexte de formation sur mes propres envies. En fait, j'ai fait un tour par téléphone de tous les copains que j'avais en chirurgie plastique et je leur ai dit qu'est-ce que vous souhaiteriez voir et quel serait votre congrès idéal. Et en fait, je me suis fait un petit tableau data de tout ce que mes copains m'ont donné comme retour. De ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils aimaient pas dans les congrès auxquels ils vont. Et en fait, c'est aussi là-dessus que j'ai construit ce produit qui est Market Fit et qui a dépassé un petit peu nos espérances et ce qu'imaginaient les gens qui sont venus. Et effectivement, au début, c'est difficile parce que personne ne te connaît. Au national, un petit peu, mais à l'international, pas du tout. Tu proposes quelque chose de nouveau qui a un certain prix. Il faut savoir que quand t'es chirurgien, t'es débordé et tes plannings, ils se font sur 6 mois, 1 an à l'avance. On s'y est pris un petit peu tard. Le temps de tout mettre en place sur le plan, comme tu dis, de la législation, de l'organisation, etc. Ça prend énormément de temps parce que tu as des gens qui viennent du monde entier pour expliquer un petit peu ce qu'ils font. Donc ça a été le premier challenge. Le deuxième challenge, ça a été de communiquer et de se marketer, compétences que je n'avais pas du tout. Et le dernier challenge, ça a été de vendre des places parce que moi, je suis pas vendeur, je n'ai pas une âme de vendeur, je ne l'ai toujours pas. Je me débrouille tant bien que mal avec ce qu'on m'a enseigné et les connaissances qu'on m'a transmises. Mais effectivement, je partais de zéro, même de moins 10 à tous les niveaux. Donc, quand on a réussi à remplir l'événement 2-3 mois avant, ça a été pour nous une espèce milestone qui a été énorme. On l'a fêté comme il se doit parce que on croyait que c'était impossible de le remplir et finalement on l'a rempli. Et cette première step, elle a un petit peu changé notre mindset et on s'est dit c'est possible, et si on a réussi à remplir, c'est qu'on doit quand même avoir un produit de qualité. Et ce qui s'est passé aussi le jour de l'événement, c'est qu'en fait on a délivré beaucoup plus que ce qui était prévu dans les programmes. Ça a plu énormément aux gens parce qu'en fait, si tu veux, on a intégré au-delà de toutes ces connaissances chirurgicales qu'on a transmises sur les machines, les techniques, etc., on a intégré aussi de l'entrepreneuriat, on a intégré du business, on a intégré du marketing, on a intégré avec un coach en business la balance work-life, tu vois. Et ça, c'est des choses qui n'avaient jamais vu, en fait, dans ce type de congrès. Donc, ça a été assez exceptionnel. On a trouvé ça top de transformer l'essai entre guillemets, même si la première année on n'a rien gagné en fait, hein, parce qu'on a, on s'était tellement mal organisé au niveau des coûts et on n'avait pas prévu les dépenses cachées que, en fait, ça a été, on était à l'équilibre, mais si tu veux, on n'a pas gagné d'argent.
Très clair. Ça fait émerger en moi une question parce que je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent. On a des auditeurs qui sont très divers, mais qui pour la plupart ont des traits communs. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens ambitieux et ce sont des gens qui, lorsqu'ils perçoivent une opportunité, ont envie de la saisir. Et je m'imagine dans la peau d'un de nos auditeurs qui peut-être aurait une expertise, est entrepreneur depuis plusieurs années ou peu importe, et se dit « j'ai quelque chose à partager ». Et la case de la transmission, c'est un petit peu la case ultime de l'accomplissement lorsque l'on a maîtrisé une discipline à son plus haut niveau. Et beaucoup veulent, à un moment donné ou à un autre, se lancer dans le monde de la formation, alors de manière plus ou moins professionnelle. En l'occurrence, vous, bah, c'est un niveau très professionnel en créant une académie, en prenant des experts reconnus, en créant un cursus pédagogique, etc. Mais souvent, on a cette croyance limitante de se dire « ça va être compliqué, c'est pas mon métier », et surtout… Seuls les gens qui vendent des formations liées au business avec un ROI rapide ou au développement personnel peuvent vraiment réussir et aller faire du chiffre d'affaires. Or, vous avez réussi à trouver le bon product market fit, avoir un certain succès, former un bon nombre de chirurgiens justement jusqu'ici sur ces dernières années. Quelles sont les différentes étapes que tu recommanderais à quelqu'un qui peut-être comme toi est un spécialiste dans son domaine, s'intéresse au monde de la formation et ne sait pas forcément par où aller, sauf qu'aujourd'hui, tu as justement ce recul sur cette expérience que tu as vécue.
Mais je te dirais que ce... Alors, je peux parler que de ce que je connais et de ce qui nous a coûté cher et qu'on n'a pas forcément pensé à faire au début, mais ce qui a beaucoup aidé, c'est de challenger l'idée, challenger les concepts, challenger les prix, challenger les tunnels, etc. Alors moi, j'avais la chance à l'époque d'avoir un mastermind, donc on a pu confronter, on va dire, tous nos process et toute notre structure à un cerveau collectif d'une quarantaine de personnes. Et là, c'est du pain béni parce que en une heure, tu as le retour de 40 cerveaux qui sont des entrepreneurs et qui sont des gens de différents milieux qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais parce qu'on est les seuls à faire ça. On était les seuls à faire ça dans notre mastermind de l'époque. Donc ça, je dirais que c'est la première étape qui, à chaque fois, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, nous a fait nous upgrader sur plein de choses en très peu de temps. Donc ça a été des pas de géant concentrés, c'était un concentré de data et de connaissances en très peu de temps. La deuxième chose, ça a été de challenger systématiquement et régulièrement par différents intervenants qui sont des experts dans leur domaine, que ce soit le marketing, la communication, les formations, régulièrement. Donc tous les trois mois, en fait, avec mes associés, on se force à se bloquer deux jours, on prend des consultants qui sont hyper spécialisés dans un domaine et qui vont venir challenger soit une partie du modèle, soit tout le modèle. Et à chaque fois, c'est des gaps énormes. Et c'est ce qui nous a conduit cette année à changer beaucoup de choses et qui fait qu'on est profitable cette année. Donc c'est un investissement à chaque fois. Parfois, je raconte à des gens qui sont totalement étrangers à ce que je fais et je leur dis que on a pris un consultant et qu'on l'a payé autant. Forcément, ça fait rougir certaines personnes, mais c'est un investissement. C'est un investissement. On n'a jamais regretté d'avoir dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros en consulting sur parfois une demi-journée ou sur parfois un peu plus parce que le ROI est juste exceptionnel et c'est des retours qui sont valables sur le long terme.
Complètement. Un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, donc, tu as d'une part l'académie, mais tu as aussi ton entreprise où vous faites des interventions. Comment tu gères les deux? Comment sont constituées ton équipe? Avant, off, tu me disais c'est hyper important d'avoir une super équipe et tu mettais en avant ton équipe. Tu l'as mis aussi en avant pendant l'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta structure et comment tu gères les choses?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Écoute, si tu posais la question à ma femme, elle me dirait que je gère très mal. Mais effectivement, c'est un challenge que j'ai pas fini de résoudre. C'est-à-dire que c'est grandement amélioré avec mes associés, parce qu'eux aussi ont plusieurs business et eux aussi ont leur activité à côté. Donc, c'est pas toujours facile de se dégager du temps pour prendre le temps de travailler sur ton business et non pas dans ton business. Donc ça, je dirais, c'est le premier challenge, essayer de sortir un peu la tête de l'eau pour justement se dégager ce temps pour challenger le modèle. Ça, c'est l'objectif principal et qu'on arrive maintenant à faire au bout d'un an et demi. Hein. Ça nous a pris énormément de temps. Effectivement, l'équipe, comme tu le dis, c'est la clé, c'est-à-dire trouver des gens de confiance, qui soient compétents, qui partagent les mêmes valeurs et à qui tu peux déléguer énormément. Pour moi, c'est 50 à 60% de l'objectif final pour avoir une boîte pérenne dans le temps et qui scale. Parce qu'effectivement, mon activité de docteur au quotidien, elle me prend déjà énormément de temps. Hein. C'est 60, 70 heures semaine. Donc en fait, tout ça, je le fais un petit peu sur les à côté, le soir, etc. Et j'essaye vraiment de rester dans ma zone de génie. C'est-à-dire que je ne fais que ce qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre que moi, si tu veux. Ça prend du temps. Et plus j'avance et plus j'essaye de former les gens pour qu'ils puissent justement faire des tâches qu'au début je ne pouvais pas déléguer. Donc ça, je dirais que c'est encore une chose sur laquelle on a besoin de on va dire de s'améliorer. Et c'est un constat qu'on a fait il y a pas très longtemps avec un de mes associés, c'est que on pense qu'on aura besoin prochainement d'un profil qui pourra nous dégager encore plus de temps et encore plus d'énergie pour se consacrer à notre zone de génie.
Mmh. Ouais. Un des pain points majeurs auquel fait face la plupart des entrepreneurs lorsqu'ils scalent et lorsqu'ils veulent structurer leur entreprise ou qu'ils sont multiprojets, c'est justement le recrutement. Notamment lorsque tu vas devoir prendre de la hauteur sur ton business, recruter par exemple un directeur des opérations ou même un CEO. Donc ce sont des postes au niveau de responsabilité à haute valeur ajoutée. Tu évoques l'importance d'avoir une équipe. J'imagine donc que tu en es satisfait. Comment est-ce que tu t'y es pris pour recruter tes bons éléments? Et j'insiste sur l'importance de cette question finalement parce que pour beaucoup, c'est vraiment une inconnue complète, voire même certains ralentissent leur activité ou volontairement diminuent leur potentiel de peur de recruter de par les expériences passées qui n'ont pas forcément été fructueuses et donc ont un certain presque dégoût du recrutement. On le voit notamment en France, parfois lorsque tu fais un mauvais recrutement, ça coûte cher, c'est assez complexe à gérer. Quels sont les différents conseils basés sur ton expérience que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent?
Alors je dirais il y a deux choses que je fais en recrutement. Il y a une partie qui est très rationnel, très systématisé, très processé, qui est l'héritage de ce que j'ai pu apprendre au contact d'autres entrepreneurs. Donc on a vraiment un process de recrutement qui est vraiment très abouti et qui permet de filtrer, mais pas toujours, hein, c'est pas du 100%, et effectivement recruter c'est prendre un risque, qui consiste à donc filtrer les CV avec un process particulier, faire un premier entretien avec ma manager des opérations, faire un deuxième entretien avec moi, avec une liste de questions qui est très processé et qui nous permet d'extraire un peu le nectar de tout ce qu'on peut avoir comme CV et comme postulant. Et après, il y a une partie moins rationnelle qui est en fait la partie où toi, tu vas attirer de par ce que tu vas dégager en termes de valeur, de ce que tu vas communiquer sur les ambitions de ta boîte, etc., vont faire vibrer des personnes qui vont du coup faire des demandes de candidature spontanées et qui vont t'envoyer spontanément des CV. Donc, il y a celles que tu vas chercher toi et il y a celles que tu vas attirer en fait parce que tu vas communiquer justement sur tout ce que tu fais dans ta boîte et ça va intéresser des gens qui vont se reconnaître et qui vont du coup postuler spontanément. Mais effectivement, on a fait des erreurs. Hein. On a fait des erreurs qui nous ont coûté extrêmement cher en temps, en énergie et forcément en argent. mais on en fait de moins en moins. De une, parce qu'on a trouvé une équipe qui est incroyable et qui fonctionne très bien et qui communique très bien. Et de deux, parce que le process s'affine avec le temps et avec ses différentes erreurs. Hein. Ouais. Et je dirais que les erreurs, c'est juste de l'expérience. C'est impossible de faire 100% de recrutement optimum et efficient sur 10, 15, 20 ans d'entreprise. Enfin, moi, j'en connais pas hein, de gens qui ont fait que du 100% en recrutement.
Complètement. Tu évoques le fait de faire des erreurs. Tu en as fait beaucoup, tu l'évoques. Ça t'a coûté cher également. Si tu devais nous citer une erreur, la plus grosse erreur potentiellement et celle qui vous a apporté la meilleure leçon, en nous l'expliquant réellement, si tu en as la possibilité, de façon à ce soit très concret et actionnable pour ceux qui nous écoutent, c'est laquelle ?
Je dirais que la plus importante, c'est d'être convaincu que ton modèle est le bon et de l'appliquer sans le challenger. En gros, hein, en résumé, c'est on a construit un modèle, on en a parlé donc entre associés ensemble et on ne l'a pas testé. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas testé soit dans le réel par le biais d'un expert ou d'un cerveau collectif comme un mastermind, et on se lance un petit peu comme ça en crash test dans le réel, alors qu'on aurait pu faire un mini crash test qui ne nous aurait pas coûté grand-chose en challengeant avec des gens bienveillants et compétents. Ça, je dirais que c'est le voilà, d'être convaincu que tu détiens le modèle qui va fonctionner et de ne pas le tester, quoi. Ça, c'est la pire erreur qu'on a plus ou moins faite à un moment donné, mais qui a, enfin, qu'on a en fait, on a challengé très vite le modèle comme on le souhaitait, et c'est jamais assez rapide. Hein. On a envie que ça aille toujours plus vite, mais effectivement, ça prend le temps que ça prend. Mais pendant quelques mois, effectivement, on est resté sur un modèle non testé, et on aurait pu gagner quelques mois. Alors, on n'a pas forcément perdu beaucoup de temps et d'énergie, mais peut-être de l'argent, parce que sur le pricing, on n'était vraiment pas bon au début. Pour plein de raisons.
Un autre sujet, c'est que tu évoques tout à l'heure l'importance donc d'avoir une équipe. Quelque chose qui maintient une équipe et la solidarise, c'est la mission, c'est la culture d'entreprise. Un des sujets autour de la culture d'entreprise, c'est justement la vision, la mission. Quel est l'impact concret que tu souhaites ou vous souhaitez avoir à travers les différentes activités que tu as? Et comment en fait tout ça se dessine et se met en place?
Alors, je dirais que le premier mot qui me vient quand tu me poses cette question, c'est le partage. C'est vraiment partager avec parce qu'on est, on doit être 50, 55 000 chirurgiens dans le monde entier, et partager cette envie d'aller vers des techniques qui sont les plus aboutis possibles, les plus raffinés possibles, et chacun des experts que j'ai pris dans notre académie est passionné par ça. C'est vraiment des gens qui sont formidables, qui sont vraiment habités par cette envie d'aller chercher vraiment les derniers tips and tricks, les derniers devices qui marchent, qui fonctionnent, qui donnent des résultats incroyables. Et on partage en fait cette passion. Et c'est ce qui fait qu'on a autant de plaisir à travailler ensemble. Et c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question de avec qui tu t'associes et comment tu fais tes recrutements d'associés ou de partenaires. Et effectivement, c'est des valeurs assez simples comme ce partage de passion, cette envie de prendre du plaisir ensemble à créer quelque chose de nouveau. Et moi, je m'éclate avec chacun de mes associés ou avec chacun des experts qui fait partie intégrante de l'académie. Donc, je dirais que numéro un, c'est vraiment la passion. Et en numéro deux, je dirais, c'est le plaisir. Le plaisir qu'on a à être ensemble, le plaisir qu'on a à partager des bons moments. Ce niveau d'énergie-là, il est très important, je trouve, quand tu as une boîte. Parce que si tu traînes les pieds quand tu dois faire ta réunion d'associés, quand tu dois échanger sur les projets, pour moi, ça met tout le monde à un très bas niveau d'énergie et ça dynamise pas le projet, en fait.
Complètement. Tu as réussi à hisser l'Académie au rang de leader international dans ce domaine. Comment est-ce que tu as construit cette réputation internationale et surtout en si peu de temps finalement, parce que la création, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez dingue et je pense que beaucoup te prennent potentiellement comme référence, comme exemple. Comment est-ce que vous y êtes pris et dans quelle mesure cela pourrait être réplicable?
Écoute, c'est une question qu'on s'est posée quelques mois après notre premier événement. Disons que l'événement a dépassé nos espérances et a dépassé ce qu'attendaient les clients qui sont venus se former, les chirurgiens qui sont venus se former avec nous. Je pense qu'ils ont... Alors, ce qui ressort en tout cas des témoignages, c'est l'énergie qu'on y a mis, la proximité qu'avaient tous ces experts internationaux avec, avec tous nos chirurgiens, nos trainees. Et ce qui leur a plu vraiment, c'est qu'ils ont eu l'impression d'avoir un vrai partage. C'était vraiment très familial. Et on s'est rendu compte qu'on avait un impact énorme quelques mois après, quand on a commencé à être sollicité par des grosses institutions de chirurgie esthétique, notamment, ben là, tu vois, ce soir, je m'envole pour Monaco. Ben, il y a cette institution-là qui nous a contactés, qui est un des plus gros congrès généralistes de médecine et de chirurgie esthétique au monde, qui reçoit 17-18 000 personnes chaque année. Et quand ils nous ont contactés en disant, ben voilà, on a trouvé ça incroyable ce que vous avez fait, ils nous suivaient sur les réseaux, etc. Ils nous ont dit, ben, on veut que vous fassiez pour nous une session de formation de plusieurs heures avec vos experts. Là, on s'est dit, waouh, on a créé quelque chose qui dépasse en fait ce qu'on avait imaginé au départ. Et puis ensuite, il y en avait un deuxième, puis un troisième. Et ça a pris des proportions qu'on n'imaginait pas. Et c'est ce qui nous a ouvert sur d'autres modèles, en fait. Des modèles plus internationaux, des modèles différents où on devient, en fait, créateur d'événements, tu vois. On est passé de centre de formation, entre guillemets, à créateur d'événements dans des événements plus grands que ce que nous, on fait. Et disons que c'est, en fait, la réponse du marché qui a fait qu'on a constaté en fait qu'on avait fait quelque chose d'assez important sur le plan international, mais on ne s'y attendait pas. Franchement, on ne pensait pas que ce serait aussi rapide et on ne pensait pas qu'il y aurait un tel engouement par des institutions reconnues et respectées pour le travail qu'on avait fourni, en fait.
Et est-ce que il y a un levier particulier que vous avez identifié qui a fait que vous avez réussi à capter autant d'audience, autant de personnes qualifiées, autant d'attention finalement, que ce soit les réseaux sociaux, parce que je vois que tu es aussi très présent sur les réseaux. On mettra d'ailleurs tes liens directement en description de l'épisode comme on le fait à chaque fois. Le contenu, il est réfléchi, il est travaillé. Le site, il est propre également. Est-ce que c'est quelque chose de commun dans cette industrie ou est-ce qu'il y a eu des petits éléments comme celui que je viens d'évoquer pour ne citer que lui qui font qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait que tout de suite vous vous démarquez de l'ensemble des autres acteurs et que vous redéfinissez les codes dans l'industrie et que donc ça attire l'attention?
Je pense qu'effectivement il y a eu plusieurs choses. C'est un petit peu multifactoriel comme tu le dis. On s'est entouré de gens qui sont hyper pros dans le domaine, c'est-à-dire qu'on avait un spécialiste LinkedIn, un spécialiste qui était top pour le site, un spécialiste pour éplucher toute la base mail et nous faire des jolis tunnels, des jolis VSL, que je remercie d'ailleurs s'il nous écoute, Nicolas, pour ça, qui nous a fait des super tunnels, qui nous a fait des belles pages de capture, etc. Et je pense que c'est le cumul, tu vois, on dit souvent le tout est supérieur à la somme des parties. Je pense que c'est le cumul de tous ces savoirs hyper spécialisés en copywriting. Tu vois, je suis allé chercher un Américain qui a fait 1 milliard de ventes pour ses clients, qui est le gars qu'on appelle quand on s'en sort pas en marketing et en copywriting, qui était extrêmement cher, mais qui est un passionné et qui nous a remis les pendules à l'heure sur plein de choses. On a des vidéastes qui sont incroyables, que je remercie aussi, notamment Christa, si elle nous écoute. Et je pense que c'est vraiment tous ces multi-canaux de communication, donc les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Une base mail solide, ça nous a permis, tu vois, petite anecdote, dernier congrès international à Paris. Je rentre dans l'ascenseur de l'hôtel et il y a une Coréenne qui est aussi chirurgien plasticienne qui me dit « Ah, mais c'est vous, docteur Delobo ?» Elle me sort un mail qu'elle a reçu de notre tunnel de mailing quelques semaines auparavant. Et du coup, en fait, d'être présent régulièrement dans la tête des gens, à la fois sur LinkedIn, à la fois sur Instagram, à la fois dans les mails et puis aussi à tous les congrès internationaux auxquels on participe, En fait, ils nous voient partout. Et donc, je pense que ça fait monter l'autorité, la légitimité, etc. Et que ça procède, enfin, ça participe en tout cas à l'omniprésence et du coup à l'awareness auprès de nos collègues chirurgiens plasticiens, en fait.
Et lorsque tu te lances dans le monde de la formation, notamment la formation en ligne, que tu veux créer une académie, comment t'es perçu par confrères, on va dire, au travers de ça? Est-ce qu'il y a un jugement, ou est-ce que ça a été directement accueilli comme étant quelque chose d'innovant, de différent et d'aidant pour la profession?
Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est comme dans n'importe quel monde professionnel, hyper spécialisé ou non. Disons que la perception et les retours qu'on peut avoir, ils suivent une courbe de Gauss, en fait. C'est-à-dire que tu as 2% à chaque extrême et puis 95% au milieu. Donc, tu as 2% de gens qui trouvent ça incroyable, exceptionnel et qui te mettent sur un piédestal. Tu as la majorité qui trouve ça intéressant et qui s'y intéresse de près ou de loin, soit parce qu'ils sont dans une autre spécialité, enfin dans une autre surspécialité de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Et certains autres qui, du coup, sont dans ce milieu-là et qui te suivent et qui regardent tes webinaires et qui t'envoient des messages sur Insta pour avoir des tips, etc. Et puis, tu en as un petit pourcentage qui, forcément, sont un petit peu soit choqués, soit jaloux, soit malveillants. Mais c'est pas du tout la majorité. Mais je dirais qu'il y a une répartition un petit peu gaussienne de tous les comportements ou les retours ou les feedbacks qu'on a pu avoir depuis qu'on a lancé l'académie.
Tu parlais tout à l'heure de stratégie marketing, justement, et de questions que vous vous posiez par rapport à votre positionnement, par rapport au copywriting et autres. Et il y a une grande question que la plupart des gens se posent, notamment lorsqu'ils sont dans une industrie qui est nichée, c'est l'acquisition. Alors, tu as évoqué de l'organique au travers de LinkedIn. On a également parler de ton Instagram où il y a plus de 16 000 personnes qui te suivent. J'imagine que la plupart des gens qui te suivent sont soit des gens de la profession, soit des clients potentiels ou des gens intéressés par la chirurgie. Donc ça reste relativement niché, notamment quand on voit le contenu qui est partagé et qui est vraiment très spécifique. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place des stratégies d'acquisition payantes au travers de la pub, de l'ads, alors que vous êtes justement dans un marché qui est très niché, ou est-ce que vous vous basez essentiellement sur de la croissance organique, sur de la recommandation et sur des partenariats ou de la visibilité au travers d'acteurs majeurs déjà présents depuis plusieurs années, comme tu l'évoquais, au travers de congrès, de représentations, de conférences?
Écoute, on a été multicanaux, c'est-à-dire que le premier réflexe que j'ai eu, moi, ça a été forcément l'Instagram, parce que la plupart des chirurgiens ont un compte Insta, en tout cas de ma génération et puis de la génération qui est au-dessus. Deuxième réflexe, ça a été de trouver une base mail qualifiée. Donc, on a trouvé des prestataires qui nous ont fourni des bases mail de chirurgiens internationaux extrêmement qualifiés, qu'on a testés et qu'on a pu épurer un petit peu. Troisième stratégie, on a trouvé une personne incroyable, d'ailleurs via ces marketeurs américains dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Kenisha, qui est une américaine qui bosse 100% sur LinkedIn et qui nous fait des super acquisitions et un super awareness sur LinkedIn, qui fait un boulot incroyable. Et ensuite, il y a eu du coup ces webinaires qui nous ont permis du coup d'acquérir de nouveaux mails entrants. Ça, je dirais que c'est les stratégies principales d'acquisition. Les partenariats qu'on a faits nous ont, en tout cas de ce que mes équipes m'ont dit, nous ont pas rapporté énormément de mails, à part un partenariat. Mais ça a été des mails qui... Il y a eu beaucoup de doublons parce qu'on avait déjà pas mal de bases. Je pense qu'on a à peu près 60%, 65% des chirurgiens plasticiens de la planète. Donc, on avait déjà une belle base de données. Et ouais, les partenariats n'ont pas été, en tout cas dans mon domaine, pas très efficaces. Vraiment, la partie mail, LinkedIn et webinaire nous a beaucoup aidé.
Aujourd'hui, vous vendez à combien votre formation, si j'ose dire, même si c'est un terme qui souvent a été un peu galvaudé, le mot formation? J'imagine que le cursus que vous proposez est bien plus poussé que juste de la formation. On le voit au travers d'interventions. Tu le présentes aussi sur tes réseaux, etc. Mais à combien est le cursus que vous vendez aujourd'hui pour les chirurgiens qui désirent être accompagnés par vous dans l'académie?
Alors écoute, on a différentes offres.
Ouais.
On a l'offre la plus haute qui est l'offre où ils viennent nous observer au bloc opératoire et ils viennent assister à ces interventions. Et ils ont également, donc c'est 3 jours, hein, 3 jours de formation où ils sont au bloc avec nous, où on leur fait aussi des conférences. Ils ont également toute une plateforme online où ils ont plus de 90 heures de vidéos sur nos talks, la façon qu'on a de faire, tu sais, les dessins, les marquages avant les interventions, et puis aussi de talks sur le business, sur le coaching, etc. La première année, alors moi j'avais totalement sous-pricé le truc, on était à 6 500, et quand on incluait l'hôtel avec les transferts, on était à 8 500. Et avec ces différents consultants qu'on a pris au courant de l'année 2023, après notre première event du mois de mai, on a triplé les prix. Donc maintenant, on est à 20 000 euros pour cette même formation de 3 jours avec la plateforme online. J'ai ajouté, moi, en bonus, 2 jours face-to-face avec moi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de la part des chirurgiens pour... avoir un complément de formation en physique avec un des experts. Donc là, j'ai proposé ça en plus. Et j'ai ajouté également 2 sculptors, donc l'instrument que j'ai créé en 2022. J'en ai ajouté 2, en fait, dans le package pour vraiment augmenter la valeur perçue. Ça a plutôt bien marché. Ça s'est pas mal vendu, même si tu as toujours une petite frayeur quand tu multiplies tes prix par 3. Et on a enlevé aussi l'hôtellerie, donc du coup ça nous a permis d'augmenter les marges. Ensuite, on a une autre formule, qui est une formule que nous on appelle la formule hybride, où les chirurgiens donc viennent sur place à Paris pendant les 3 jours, ils ne sont pas au bloc opératoire avec nous, mais ils regardent les chirurgies qu'on fait sur écran. Donc ils ont accès aux mêmes lectures, aux mêmes training business, etc. Mais par contre, ils ne sont pas au bloc opératoire en tant qu'observateurs, ils sont vraiment dans une salle avec des écrans, ils peuvent assister aux chirurgies sur écran. Cette formule-là, l'année dernière, elle était entre 2 et 3 000 euros selon le moment où on la vendait, et cette année, elle est à 9 000. Donc tu vois, on a plus que triplé les prix. Après, on a une formule en distanciel qui permet aux chirurgiens qui sont vraiment très éloignés. L'année dernière, on avait des Australiens qui nous suivaient en distanciel, qui l'année dernière était, je crois, au même prix que la formule hybride, et qui cette année, pareil, est au même prix que la formule hybride, donc 9 000 euros. Et pour les personnes qui souhaitent juste profiter de notre académie online, on est sur 4 500 euros pour un lifetime access au replay, en fait, hein, de notre formation de 2023 et puis à la future formation de 2024. Et je crois qu'on a fait le tour de nos offres de cette année. Et là, on va lancer une nouvelle offre avec un accompagnement annuel où ils vont avoir accès donc à 4 de nos experts, et ils pourront passer une semaine complète avec eux en présentiel dans leur clinique, au sein de leur business, rencontrer les managers de leur clinique, accéder à tous les process, à tous les tunnels de vente, etc., à tout ce qui se fait comme protocole pré et post-opératoire au sein des cliniques de chacun de ces experts. Il y a aussi un accompagnement d'un an avec un marketeur qui nous a beaucoup aidé pendant la croissance de notre business, et un accompagnement en coaching avec un de nos associés qui est coach en business pendant un an. Donc on a vraiment augmenté la valeur, en fait, de cette offre pour passer sur un accompagnement annuel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande en post-événement pour parfaire les techniques, parce que c'est vrai que tu peux pas de former une technique qui prend des années à être totalement maîtrisée en 3 jours. Ça te donne des idées, ça te donne des bases, mais tu as envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça que moi, j'ai dépensé, je pense, 150 000 euros en formation avec des chirurgiens du monde entier, et je continue de le faire. Là, au mois de décembre, j'étais encore avec une demi-douzaine d'experts en Amérique du Sud pour parfaire mes techniques, puis en apprendre de nouvelles. Et je ne cesse pas d'aller challenger mes connaissances et d'aller les confronter à avec des gens qui sont à un niveau incroyable.
Complètement, tu mets en évidence deux points que j'ai envie de souligner. Le premier, c'est la capacité à oser assumer la valeur que l'on délivre à ses clients lorsque tu vas augmenter et multiplier par 3 tes prix. Même nous, on le voit lorsqu'on accompagne des entrepreneurs chez entrepreneurs.com, souvent on se rend compte que les clients ont tendance à sous-estimer leur prix et la valeur qu'ils délivrent à leurs clients, et que finalement, lorsque tu les augmentes, tu ne vas pas forcément non plus choquer ou ne plus avoir de clients. Au contraire, tu vas peut-être augmenter même le niveau d'engagement de ceux-ci et pouvoir délivrer plus de valeur parce que naturellement, tu as plus de ressources. Et l'autre point que tu évoques, qui est complémentaire au premier, c'est le fait que nous restons des éternels étudiants et qu'il ne faut jamais se reposer sur nos lauriers, et que même toi, qui es considéré aussi comme un expert dans ton domaine, tu l'évoquais, près de 60% de la base mondiale des chirurgiens plasticiens, vous l'avez peut-être dans votre base mail, donc ça dénote le fait que tu as une certaine visibilité, que tu es connu et perçu comme étant expert dans ton domaine. Tu continues de t'améliorer, de te former, d'avancer. Et justement, ça permet d'introduire une autre question business que j'ai envie de te poser, c'est que lorsque tu as conscience du fait d'avoir plus de la moitié de la base de contact mondial que tu pourrais avoir et acquérir, que tu la possèdes déjà, tu es obligé d'être dans une dynamique où tu vas mettre plus d'énergie sur la rétention, l'éducation et la conversion des leads déjà acquis, plutôt que l'acquisition de nouveaux leads pour développer justement de la visibilité. Comment est-ce que vous vous y prenez, vous en interne, pour maximiser la relation que vous arrivez à établir avec votre liste, avec les gens qui vous suivent, et faire du nurturing, on appelle ça, dans votre base, de façon à les éduquer et les mener de manière progressive, sans pour autant les cramer, vers une de vos offres la plus adaptée?
Ben écoute, c'est une super question, Alec, parce que justement, le dernier consulting que j'ai fait, c'était avec Oussama. Et le gros point qu'il a relevé, c'était ce point de nurturing, en fait, qu'on fait déjà.
Ouais.
Avec nos webinaires mensuels où on fait intervenir un expert différent à chaque fois. Donc moi, je suis présent, puis j'échange avec un expert sur une technique en particulier. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que comme c'est un public hyper spécialisé, il faut absolument qu'on leur délivre de la connaissance, de façon exponentielle, quoi, au plus haut point, et avec ce que nous on apprend de notre quotidien et de ce qu'on apprend des formations qu'on continue à faire. Et le gros challenge de 2024-2025, ça va être de systématiser ce système de nurturing pour leur apporter énormément de valeur, pour qu'ils associent en gros The Body Contouring Academy avec l'excellence, le partage, la valeur ajoutée. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue purement théorique, ça m'a paru évident quand il m'a dit ça. Et après, le challenge, c'est de le transformer. Comment tu fais? Comment tu dégages du temps? Comment tu organises? Parce que c'est vrai que comme c'est un savoir hyper spécialisé, forcément, c'est un truc que tu ne peux pas déléguer à tout le monde. Et donc, ça, c'est le challenge des prochains mois, on va dire. Ça va être de performer encore plus dans ce nurturing. Alors, on fait des replays gratuits, nos webinaires de temps en temps. On envoie aussi des extraits de notre formation de 2023, des extraits que nous on trouve hyper intéressants, et c'est vrai que ça marche pas mal, hein, on voit avec des retours d'audience qui sont assez sympas, et c'est pas forcément toujours des extraits qui sont sur la partie technique de la chirurgie, mais plus sur la partie business. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle appétence pour tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, le pricing, hein. Clairement, on s'est rendu compte en fait pendant cette académie qu'on se sous-priceait énormément, et en fait c'est notre collègue américain qui nous a un peu fait péter nos croyances limitantes en nous montrant ces tableaux de chiffres depuis 4 ans mensuels, en fait. Et il dit voilà, vous pouvez optimiser que ce que vous suivez et que ce que vous monitorez, en fait. Donc si vous ne monitorez pas votre business, vos prices, etc., jamais vous pourrez les optimiser. Et tu vois, là je reviens d'Amérique du Sud en décembre, j'ai parlé avec un chirurgien brésilien. Les 5 minutes de discussion qu'on a eues sur ces 3 jours de formation, ça a rentabilisé largement une formation que j'ai payée plus de 20 000 euros. 5 minutes de discussion juste sur une partie de ce que lui fait pour augmenter la valeur perçue, pour délivrer encore plus de valeur, pour processer certaines choses. Et juste en 5 minutes de discussion presque amicale, informelle, totalement informelle, ça m'a remboursé largement l'aller-retour, le prix de la formation, etc.
Complètement. Je rebondis sur un sujet, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise. Tu as tout à fait raison et ça vaut pour tout, les KPI dans son business. Un autre point également, c'est finalement la dimension business s'intègre de plus en plus également dans vos cursus de formation parce que les gens voient qu'il y a une vraie valeur ajoutée au travers de ça. Le métier de chirurgien, il est... On peut penser un petit peu à tout, tu vois, dans ça. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me disais, waouh, c'est un peu le métier que tu vas rêver, comme les astronautes, comme enquête, investigation. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas, personnellement. Puis j'avais une mère, j'ai une mère qui est esthéticienne. Et du coup, elle était assez dans tout ça, dans la beauté, dans les jolies choses, etc. Et c'est un peu un métier que tu vas limite fantasmer, imaginer plein de choses. Grosso modo, lorsque tu as une clinique, c'est quoi les plus grands challenges auxquels tu fais face combien on peut générer, gagner d'un point de vue business dans des grandes lignes, dans des tranches? J'imagine que c'est des sujets que tu évoques régulièrement avec tes différents clients pour qu'on puisse factuellement, concrètement, de la bouche d'un expert, avoir de la clarté sur ce métier.
Non, c'est hyper intéressant comme question. Effectivement, je te rejoins sur le côté fantasme. Moi, j'avais la même chose, la même perception que toi quand j'étais gamin et que je voyais des chirurgiens à la télé. Et c'est une des choses qui m'a poussé aussi à faire ce métier. Je me rappelle une émission à l'époque sur M6 sur des chirurgiens plasticiens justement qui partaient en mission humanitaire. Et tu avais une caméra embarquée qui les suivait en mission humanitaire. Et puis dans leur quotidien de chirurgien libéral à Paris. Et j'avais trouvé ça absolument formidable. C'était des gens hyper inspirants que je côtoie maintenant. C'est assez marrant, c'est que maintenant je les connais personnellement. Qui sont en fin de carrière. Et... pour la partie rémunération, donc pour donner un ordre de grandeur, donc quand tu démarres en chirurgie plastique, donc et que tu es interne, tout le monde connaît un petit peu le salaire des internes, hein, ça oscille entre 1400 et 1600 euros, et puis quand tu fais beaucoup de gardes, beaucoup d'astreintes, que tu fais 120 heures par semaine, bah, tu peux monter à 2000, 2500 euros, mais bon, ton taux horaire reste à 6-7 euros, quoi. Et puis après, quand tu deviens chirurgien senior, entre guillemets, tu peux espérer avoir un salaire entre, on va dire, 4000 et 8000 euros, c'est une fourchette... une fourchette un petit peu large en fonction du nombre d'astreintes et de gardes que tu fais, parce que ça c'est une part variable qui est énorme en fait dans le salaire d'un chirurgien qui travaille en hôpital. Donc effectivement ton taux horaire reste extrêmement bas par rapport à quelqu'un qui a fait 13 ans d'études. Et puis après, quand tu es en libéral, en fait ça va dépendre un petit peu de ton activité, du caractère un peu niché de ta spécialité, mais effectivement tu peux largement dépasser les 15 ou 20 000 euros par mois. C'est pas déconnant pour un chirurgien. Et puis après, tu as des exemples assez extrêmes. On connaît tous, t'as des auditeurs qui ont vu ça dans le New York Times, de ce chirurgien esthétique à New York qui fait des liftings à un quart de million de dollars et qui en fait 4 par semaine. Donc en fait, en fonction de ta réputation, du caractère vraiment niché de ce que tu fais, ben, y a des gens qui sont prêts à payer extrêmement cher pour aller chercher ce savoir hyper, hyper spécialisé dans un domaine. Donc là, celui que je cite en l'occurrence, il est très connu, hein, il opère des princes de Middle East, j'allais dire, du Moyen-Orient, et puis des stars américaines. Et effectivement, il prend entre 150 et 250 000 euros pour faire un lifting. Mais ça, c'est un exemple vraiment, c'est un épiphénomène, on va dire. Après, tu as des gens qui ont développé des cliniques, alors soit une, soit plusieurs, et puis qui, du coup, vont avoir 10, 15 chirurgiens qui vont travailler pour eux, et puis qui vont faire des millions d'euros chaque année. Hein. On connaît tous ces exemples-là. Donc effectivement, tu as de tout, et en fait ça va dépendre un petit peu de l'étendue de ton savoir, de l'awareness du public, des patients en fait qui vont venir te voir sur ta réputation, ta notoriété, etc. Et puis ça va dépendre aussi de ton mindset entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en fait n'opèrent pas beaucoup, voire plus du tout, mais qui deviennent vraiment propriétaires de cliniques, de différents business. On peut en citer quelques-uns, comme l'épilation laser, comme la médecine esthétique, avec certaines machines qui donnent des rajeunissements et des rafraîchissements au niveau du visage. Et puis ces gens-là sont devenus des propriétaires de business. Et c'est des gens qui ont en général un bon mindset entrepreneurial ou ils ont carrément créé des organismes de formation internationaux qu'ils ont revendus plus tard pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc en fait, tu as de tout. Je dirais, c'est un petit peu comme n'importe quel business. On connaît tous des gens qui sont dans l'IMO et qui font quelques milliers d'euros par mois, et puis d'autres qui ont lancé leur boîte, qui a cartonné, et puis qui deviennent nationaux, internationaux, et puis qui font des centaines de millions d'euros par année. Donc effectivement, j'ai envie de dire, il y a autant de modèles possibles que dans l'entrepreneuriat en général.
Complètement, complètement. Et je suis content que tu l'évoques de cette façon, parce que finalement, c'est pareil dans tout domaine, et tu as tout à fait raison. J'aimerais te mener aussi sur la partie finalement perception de l'industrie de la chirurgie au global. On l'a rapidement évoqué avec cette question finalement, mais la chirurgie est souvent tabou, surtout en France. Comment perçois-tu l'évolution de la perception du public de la chirurgie esthétique et plastique, et surtout, quel rôle penses-tu que ton travail joue dans la démystification de ce domaine ?
Écoute, c'est une super question à laquelle j'ai souvent du mal à répondre, en tout cas sur la deuxième partie. En tout cas sur la première partie, tu vois, il y a des stats mondiales hein, qui sortent tous les ans, avec des enquêtes internationales qui sont faites par un organisme international qui s'appelle l'ISAPS, hein, donc c'est International Society Aesthetic and Plastic Surgeon, et ils font des enquêtes, du coup, moi j'en reçois régulièrement, sur la perception de la chirurgie esthétique, l'évolution de la chirurgie esthétique, des datas sur la croissance par spécialité, donc chirurgie du visage, chirurgie des yeux, chirurgie du nez, chirurgie des seins. Et par exemple, dans notre domaine, qui est la liposculpture ou la liposuction haute définition, eh ben, on est passé numéro 1 en nombre de procédures annuelles, hein, en valeur absolue. Il y a plus de 2 millions de liposuctions qui se font par année dans le monde. Et c'est un chiffre qui est en croissance de 25% annuel, hein, entre 20 et 25% de manière annuelle. C'est devenu la chirurgie numéro 2, je crois, chez les femmes, juste derrière les prothèses mammaires, ou alors ils sont quasiment à égalité. Et c'est également devenu la chirurgie numéro 2 chez les hommes. Chose qui est extrêmement intéressante, c'est que moi, par exemple, au cabinet, je vois... alors, quand j'ai commencé, je voyais peut-être 2 ou 3% d'hommes pour ce type d'indication. Et maintenant, on est passé à, je pense, 10, 15%. Donc, le chiffre a été multiplié par 7 ou 8 en quelques années. Alors, je pense que les réseaux sociaux jouent indéniablement un rôle prépondérant, hein. Il y a vraiment un impact énorme des réseaux sociaux sur ce phénomène-là. Je pense qu'il y a un changement de paradigme aussi. Les gens font de plus en plus attention à leur corps. Il y a cette mode un peu healthy, un peu fitness qu'on voit partout sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc ça, ça a dû participer de l'augmentation du nombre de procédures, je pense en tout cas. Après, mon rôle, je pense sincèrement qu'il est très modeste, hein. Je ne suis pas suivi par non plus des centaines de milliers de personnes. Et alors peut-être que le côté artistique de mon travail va être un déclencheur pour certaines personnes qui pensaient déjà, mais qui voyaient la liposuction peut-être comme un acte un petit peu barbare, un petit peu brut, parce que finalement on est des artisans, hein. Moi le geste que je fais le plus au quotidien, ben, c'est en fait un mouvement de l'épaule avec des va-et-vient, donc je suis un petit peu comme un artisan, comme un menuisier ou un sculpteur, tu vois. Je dirais que c'est pas une partie de la chirurgie plastique qui est très intellectuelle, et c'est pour ça que la liposuction, ça a été délaissé par pas mal de chirurgiens pendant pas mal d'années, parce que le geste en soi n'est pas noble
entre guillemets, ce n'est pas un geste comme je te parlais tout à l'heure de microchirurgie, par exemple, où tu vas aller sur des vaisseaux qui sont tout petits, qui font quelques dizaines de microns, avec des fils extrêmement fins, sous microscope, etc. Là, tout de suite, pour le public, on va dire le grand public, c'est quelque chose d'hyper noble parce que c'est hyper technique. Et quand tu regardes un geste de quelqu'un qui fait une liposuction, c'est pas quelque chose de très élégant. Et c'est pour ça que je trouve que la liposculpture a été une excellente chose pour l'image en fait de la liposuction auprès du grand public et aussi auprès des chirurgiens esthétiques. Hein. C'est qu'on est vraiment passé d'un geste où tu viens simplement retirer des morceaux de gras à différents endroits du corps à un concept. Vraiment, il y a eu un shift dans le concept où tu viens révéler en fait des structures anatomiques qui existent déjà, comme les muscles de l'abdomen, les muscles des pectoraux, les muscles des épaules, etc. Et donc en fait, on a gagné en technicité, on a gagné en élégance du geste avec, ben, tu vois, des instruments un peu plus aboutis comme le Sculptor que j'ai développé au départ pour moi en fait. Hein. J'ai développé ça pour me faciliter la vie et pour éviter de me fracasser la main contre ces canules en métal qu'on utilise pour aspirer la graisse. Et puis, il y a eu tout un raffinement technologique avec l'arrivée de l'échographie. Donc, l'échographie, c'est un examen que tout le monde connaît et qu'on fait quand on veut chercher un calcul dans la vessie ou quand on veut explorer un tendon ou une articulation ou autre chose. Et donc, du coup, l'échographie a été, on va dire, intégrée dans cette sculpture des corps par un chirurgien brésilien qui est un ami, hein, qui s'appelle Maurizio Viaro, que je salue et qui est quelqu'un d'adorable, d'extrêmement gentil et qui a un peu révolutionné la chirurgie, la liposculpture de l'abdomen en développant une technique d'injection, en fait, d'augmentation des muscles avec la propre graisse du patient au niveau des muscles grand droit. Hein, c'est ce qu'on appelle le six-packs dans le langage courant. Ses muscles abdominaux, les tablettes de chocolat. Et en fait, il a, en apportant cette technicité au geste qui est un petit peu barbare de liposuction, a changé en fait la vision auprès du grand public et puis auprès des confrères, parce que c'est un geste qui techniquement est extrêmement difficile, qui demande une grande maîtrise, que personne ne pratique en France à l'heure actuelle et qui rend en fait cette chirurgie beaucoup plus intéressante sur le plan intellectuel. Donc effectivement, il y a eu un gros shift, il y a eu des gros changements ces 5 dernières années surtout et qui sont en train d'arriver en France tout doucement.
Ouais. Tu évoquais il y a quelques instants les réseaux sociaux justement. On vit aujourd'hui dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents et où on est beaucoup dans l'image, dans le paraître, plus que dans l'être parfois. Et il y a aussi quelque chose qui a attiré mon attention, entre guillemets, et j'en comprends le message, mais c'est intéressant, c'est complémentaire avec cette notion des réseaux sociaux, c'est que dans ta bio Instagram, t'écris « changer de corps, changer de vie ». Et je trouve ça hyper intéressant parce que finalement c'est le cas pour beaucoup. On peut avoir par exemple un complexe ou on peut avoir différentes choses qui font qu'on a besoin et on a envie de pouvoir changer de corps. Dans ton cas, comment est-ce que tu gères les attentes de tes patients à l'ère des réseaux sociaux où l'image corporelle est constamment mise en avant et un enjeu clé limite pour s'intégrer dans la société ou en tout cas se faire reconnaître avec de grandes guillemets dans la société.
Écoute, c'est une super question, c'est une question que j'adore parce qu'on a évalué, si tu veux, l'impact de nos chirurgies sur 10 critères qui sont des critères psychologiques pour la plupart chez nos patients masculins. Parmi ces critères, il y a l'habillage, le regard des autres, enfin en tout cas la perception du regard des autres, l'image de soi, la qualité de vie sexuelle, la confiance en soi, la confiance au travail, etc. Et il y a été une période où en fait, avant de se faire opérer, les patients hommes devaient systématiquement remplir ces critères-là, et puis ils remplissaient de nouveau ces critères-là avec moi en consultation 6 mois après. Et on a trouvé qu'en moyenne sur tous les critères, donc il y avait une note entre 0 et 100%.
avant la chirurgie, la plupart d'entre eux étaient autour de 30-40%. Donc 30-40% de confiance, 30-40% de qualité de vie sexuelle, 30-40% de perception du regard des autres positive, 30-40% de perception de l'image de soi positive. Et tous, je dis bien tous, hein, c'est une réelle étude qu'on a fait, étaient à 100% en post-opératoire à 6 mois. Et ça se traduisait dans plein de secteurs de leur vie, entre guillemets. Donc, au boulot, ils s'habillaient différemment. Avec les femmes, en général, ils se sentaient plus confiants. Et ça, c'est un retour que j'ai de tous les hommes que j'opère. J'ai beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait quelques émissions. On avait fait une télé, on avait fait un M6 avec un patient entrepreneur et un ancien basketteur pro de haut niveau. Et c'est marrant, c'est que la journaliste pose la question, donc 3 ou 6 mois après, elle lui dit, mais qu'est-ce que ça a changé dans vos business? Parce qu'il s'est reconverti de basketteur pro à gestionnaire de différentes salles de sport. Et il dit, ben, en fait, quand je rentre dans une pièce, je me sens plus massif. Alors qu'il fait 1m92 ou 15 et que le gars est très massif au départ. Et il dit, bah, quand je rentre maintenant dans une pièce, j'ai l'impression qu'on me respecte parce que je prends plus de place, en fait. Donc, c'est très psychologique comme truc, parce qu'effectivement, on a élargi un peu sa carrure, il est un peu plus taillé en V, etc. Mais si on prend son tour d'épaule, bon, certes, ça a un peu augmenté parce qu'on a fait une augmentation des épaules, mais c'est quelques centimètres. Et en fait, c'est la perception qu'il a lui-même qui a changé. Et du coup, effectivement, ça se ressent dans sa vie de tous les jours. Et quasiment toutes les personnes qu'on opère, sans exception, nous disent « mais ouais, c'est incroyable, tout a changé, je m'habille différemment, je suis plus serré dans mes chemises, j'ai l'impression qu'on m'écoute plus, que je suis plus respecté. » Et c'est plein de signaux faibles comme ça, psychologiques, on se dit « waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça ». Et moi, alors, anthropologiquement, ça s'explique de différentes manières. La carrure qu'on change, en fait, pendant notre chirurgie, on vient tailler ses dos en V, on vient enlever les poignées d'amour. En fait, ça élargit ce qu'on appelle le ratio d'Adonis. Le ratio d'Adonis, c'est le ratio que tu as entre la largeur de tes épaules et la largeur de ton buste. Plus ce ratio est grand, et plus tu vas être perçu, notamment par les femmes, comme un pilier, comme quelqu'un de fort, etc. Donc, c'est des trucs qui datent de la préhistoire et qui sont des choses qui sont ancrées génétiquement et dans la psychologie globale à l'échelle planétaire, qui sont plus vraies aujourd'hui parce que c'est d'autres choses qui comptent. T'as plus besoin d'aller défendre ton village contre des prédateurs à l'heure actuelle, mais c'est des choses qui sont restées ancrées dans le cerveau reptilien. Et donc, ça a un impact réel sur la psychologie de nos patients. Et nous, on l'a constaté, en fait, chemin faisant, en faisant cette petite étude psychologique sur l'impact de nos chirurgies. Et après, ta deuxième question, c'était ?
C'est justement, comment vous gérez les attentes de certains clients ?
Ah oui, les attentes. Alors ça, c'est une super question. Donc ça, c'est process, hein, c'est pareil. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. On a vraiment des process où on va poser différentes questions, notamment sur la perception de soi, sur les critères. En fait, on va demander aux patients quels sont vos, en gros, KPI. Alors, on ne le dit pas comme ça, hein, mais quels sont vos KPI d'une chirurgie réussie. Et si on voit que d'une façon ou d'une autre, les attentes ne sont pas du tout réalistes, on se rend compte qu'en fait il y a des énormes complexes qui viennent d'autres choses, en fait, hein, y a plein de choses qu'on découvre en consultation qui peuvent être liées à des traumas passés, etc. C'est notre rôle de filtrer, en fait, et de voir quelles sont les personnes qui sont prêtes à on dit subir une chirurgie, hein, c'est pas pour rien, c'est que ça a un impact quand même important. Il faut prendre le risque de faire une anesthésie générale, etc. Donc c'est pas une chirurgie qui est anodine. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une petite chirurgie. Donc notre rôle, c'est vraiment de le premier rôle, en tout cas du chirurgien, c'est de travailler en sécurité et de filtrer énormément les demandes, les attentes, et de bien vérifier qu'elles correspondent à ce que nous on peut faire. Moi, c'est ce que je dis aux patients en consultation, c'est si vos attentes sont à 110% et que moi je suis en fait capable de réaliser que 70%, dans certains cas, je ne peux pas faire plus pour différentes raisons, le gap de 40% va faire que vous allez être insatisfait. Et il vaut mieux ne pas le faire. Moi, je refuse régulièrement, quasiment tous les jours, je refuse des gens pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, hein, pour des raisons de problèmes physiques, d'antécédents, de médicaments, etc. quoi.
Extrêmement intéressant. Et justement, je peux tout à fait comprendre le fait que les gens, après une intervention, qu'ils aient ou pas un complexe, peu importe, puissent se sentir bien mieux dans leur corps, bien mieux dans leur peau et donc bien mieux dans leur tête, et que ça ait une influence directe sur l'ensemble des choses qu'ils mettent en place dans leur vie. Et imaginons, à contrario, je suis un auditeur du podcast ou même moi, prenons un cas concret, imaginons, je te pose une question et je viens en consultation chez toi ou chez un de tes confrères. Et j'ai un complexe qui fait que j'ose pas prendre la parole en public, j'arrive pas à m'affirmer, j'ai de la peine à exprimer mes idées, et donc je manque de leadership lorsque je veux partager un message, que ce soit à des clients ou à des équipes. Donc j'ai conscience que mon complexe a un impact direct dans ma vie. Par contre, je n'ai pas forcément les moyens à l'heure actuelle pour pouvoir m'offrir une intervention chirurgicale et donc régler ce problème. Est-ce qu'il y aurait quelques conseils que tu pourrais partager à quelqu'un qui serait dans ce cas-là pour qu'il puisse au mieux vivre avec sa problématique plutôt que de continuer à la subir, et le jour venu, lorsqu'il en aura la possibilité, faire, s'il le désire, une intervention pour régler cette problématique?
Écoute, c'est une super question. Je pense qu'un psychologue y répondrait très bien. mais effectivement, c'est des choses qu'on voit souvent. Moi, je pose la question, mais quelles sont les choses que vous ne faites pas à cause de ça? Et effectivement, parfois, il y a des réponses incroyables. On se rend compte que la personne est complètement bloquée. Souvent, c'est sur la vie intime, le rapport avec les femmes, etc. Hein, quand je parle des hommes. Bloqué littéralement dans ses relations sociales à cause d'un complexe. Alors c'est souvent ce qu'on voit souvent en consultation, c'est qu'on ne se perçoit pas comme on est. C'est pour ça que j'adore les consultations de couple, parce que on a le regard du conjoint et effectivement on se rend compte que l'image que le patient a lui-même est très éloignée de l'image que je peux moi avoir avec des critères objectifs, ou que l'image qu'à le conjoint, en fait. Donc, c'est très intéressant de faire des consultations, on va dire, à trois, pour ces raisons-là. Et après, donc, si on prend l'exemple de la parole en public, moi, par exemple, alors ça paraît fou de dire ça maintenant, parce que je suis dans des congrès internationaux partout, je m'exprime en anglais, devant des publics d'anglais natifs, etc., chose que j'imaginais pas possible il y a encore peut-être 4 ou 5 ans. Mais que je fais maintenant, et alors toujours un petit peu stress, mais c'est vrai que c'est plus du tout comme les premières fois. Alors moi, j'avais pas de complexe physique particulier, mais à mon sens, toutes ces peurs-là, toutes ces projections-là, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai résolues, c'est d'avoir le courage d'aller se confronter. Progressivement, bien sûr, tu ne vas pas prendre la parole directement devant 10 000 personnes, mais c'est vraiment construire ce courage petit à petit d'aller se challenger. Alors, ça peut être devant des proches d'abord, tout en s'enregistrant, tout en prenant du feedback, hein, parce que s'exercer 10 000 fois, mais sans feedback, ça ne sert à rien. Et puis, aller devant des auditoires de plus en plus importants et d'aller se confronter. Et dans tous les cas, à un moment donné, tu vas te planter. Moi, ça m'est arrivé pour plein de raisons, c'est parce que j'avais zappé le texte ou que je me suis planté dans mes slides, enfin bref. Et c'est comme ça que tu vas construire le courage d'aller confronter des publics de plus en plus imposants. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire de construire le courage d'aller confronter petit à petit des choses de plus en plus difficiles, en tout cas pour lesquelles on attribue une valeur stress, une valeur stress psychologique de plus en plus importante. C'est vraiment une question de courage. C'est comme les phobies, en fait, d'aller, je sais pas, prendre l'ascenseur, par exemple. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui en parle, c'est Jordan Peterson qui fait son petit process de confrontation des peurs à quelqu'un qui est claustro de l'ascenseur. Et il lui fait progressivement passer devant un ascenseur, et puis s'arrêter devant, et puis mettre un pied dedans, puis ressortir, et puis rentrer dedans, laisser la porte se fermer. Et en fait, il va construire le courage de la personne progressivement vis-à-vis de sa propre peur, en fait. Et pour moi, c'est un petit peu comme ça que je procède, en tout cas en ce qui me concerne dans la vie de tous les jours, quoi.
Mmh, complètement. Un autre sujet également, tu l'as rapidement évoqué en plaisantant tout à l'heure, en évoquant le fait qu'il fallait poser cette question à ton épouse, mais entre la chirurgie, la gestion d'entreprise, ton rôle de formateur, là tu l'évoquais même, les conférences, tu as réussi à exceller dans plusieurs domaines et ce simultanément, c'est pas anodin. Est-ce qu'il y a des stratégies notamment de gestion du temps ou de priorisation ou de montée en compétences que tu as utilisées pour être plus efficace et réussir à exceller ou tout du moins à réussir dans chacun des domaines que j'ai évoqués?
Alors oui, t'as oublié que je suis papa aussi de deux enfants, donc ça me prend aussi beaucoup de temps. C'est le gros challenge du moment. Alors je dirais que ma compagne, que je salue et qui écoutera j'espère le podcast, me permet de réaliser tout ça en fait. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'aussi t'es un être humain et que on a tous nos besoins de sécurité, de reconnaissance, d'importance, etc. Et que moi mon besoin de sécurité il est 100% comblé par ma compagne et sans un partenaire de vie exceptionnel comme j'ai la chance d'avoir, je n'aurais pas fait le quart de ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Donc ça, je dirais, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, pour moi en tout cas, ça a été entreprendre à plusieurs et d'entreprendre avec des amis en fait. C'est-à-dire que j'ai choisi, alors moi je choisis mes associés d'une façon extrêmement simple, c'est je ne prends que des gens qui ont un domaine de compétences que je n'ai pas. Je ne prends jamais un associé pour l'argent par exemple, parce que ça, la banque elle peut largement le faire, ou d'autres manières. Mais je ne prends que des personnes qui sont dans une zone de génie dans laquelle moi je ne suis pas. Et le deuxième critère, c'est je ne prends que des gens avec qui j'ai plaisir à échanger. Donc il s'est avéré que la plupart de mes associés sont en fait des amis. Et ça te permet de partager la charge mentale de la boîte, chose qui est quand même non négligeable parce qu'il y a des moments où c'est difficile. Moi, je me rappelle d'une période très particulière entre novembre et janvier 2022-2023, du coup, on n'arrivait pas à vendre les places, où ça décollait pas. Et il y a eu une petite période où le stress a été un peu plus important pour plein de raisons, parce que forcément, quand tu as plusieurs business, tu accumules une charge mentale pour chacun de ces business. Et s'il n'y avait pas eu mes associés à ce moment-là pour m'aider à partager cette charge mentale et pour m'aider à gérer toutes ces charges mentales et ce stress, effectivement, je pense qu'à un moment donné, j'aurais laissé tomber, quoi. Et ça, c'est une donnée qui est hyper importante. C'est les associés, les personnes avec qui tu le fais, et aussi après, c'est ton équipe et le partage en fait de cette charge mentale et forcément de ce que ça va te prendre comme temps pour décharger un petit peu toutes ces tâches qui sont incompressibles, soit auprès de tes associés, soit avec ton équipe. C'est des choses qui sont indispensables. Donc vraiment le qui avec qui tu t'associes, le qui de ton équipe sont pour moi les deux challenge les plus importants. J'ai un de mes mentors qui dit souvent derrière chaque grand challenge dans l'entrepreneuriat, il y a un qui. Et effectivement, ça s'est confirmé en tout cas dans nos business. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un challenge, que ce soit sur l'opérationnel, le marketing, l'acquisition, le copywriting, le branding ou peu importe, il y avait toujours un qui a répondu à ce challenge. Donc moi, je dirais que trouver les qui, c'est limite devenu notre boussole et notre GPS numéro 1. Notamment, je pense à une boîte qu'on est en train de faire avec deux associés où là, sans les qui, en fait, on se rend compte qu'on n'avance pas, en fait. Mmh. On n'avance pas et on a trouvé les qui là avant-hier ou hier, je ne sais plus. Et ça va nous permettre de faire un énorme pas en avant. En fait.
Complètement. Et on en revient justement à cette notion de recrutement, à l'humain qu'on évoquait en début de podcast. Tu parlais de ton équipe notamment. Encore une fois, le qui est capital, et ce quel que soit l'enjeu et quel que soit le contexte. En parlant d'humain, tu agis aussi en tant que porte-parole d'une ONG pour oui. Que ça se situe pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce que ça représente. En quoi consiste ce rôle ?
Eh bien, écoute, c'est une histoire que j'aime bien partager parce que j'avais été interrogé justement là-dessus de cette notion de contribution. C'est-à-dire que moi, j'ai un de mes mentors qui nous parle régulièrement de contributions et à quel point c'est important de contribuer. Et à force de l'entendre, je me suis, on va dire, sérieusement posé la question. Et puis après m'être posé la question, j'ai un de mes associés et amis qui, lui, s'est mis à contribuer aussi. Et là, j'ai eu cette sensation de « ça y est, c'est le moment ». Et les questions que j'ai souvent, c'est « mais est-ce qu'il y a un niveau que tu t'es fixé, un niveau de revenu, j'entends par là, ou un niveau de sécurité que tu t'es fixé avant de consacrer de l'énergie à contribuer ?» Et effectivement, quand j'ai répondu à cette question, en fait, moi, je m'étais fixé aucun checkpoint, si tu veux, aucune milestone de « tiens, à partir de temps, je vais pouvoir contribuer ». En fait, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que ça faisait 6 mois que je sentais que j'avais ce besoin de contribuer pour quelque chose de plus grand que moi, d'une façon ou d'une autre. Et il y a un de mes mentors qui m'a appelé, m'a dit bah, « tiens, viens, Paris, telle date, on mange au resto, etc. » Et je ne savais pas du tout pourquoi il voulait qu'on se voit. Et il m'a dit « bah tiens, voilà, ça c'est une ONG, tu vas être porte-parole ». Je dis « bah ok, c'est incroyable parce qu'en fait, ça fait 6 mois que j'ai envie de contribuer et je ne savais pas comment ». Et puis en fait, la réponse m'est venue, m'a été envoyée comme ça, de nulle part, de l'univers, de ce que tu veux. Et ça a été un grand oui parce que pour moi, c'était une évidence. Et en plus, je le fais avec des amis et des partenaires qui sont à haute valeur ajoutée. Et effectivement, ça fait sens et ça quand tu le fais, en fait, il y a une énergie différente. Il y a une énergie différente, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que c'est différent de tout ce que tu fais d'habitude. Alors, ça reste de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bon, là, je suis passé président de l'ONG là, il y a quelques semaines. Mais effectivement, bah, ça reste des façons de faire un peu similaires à l'entreprise dans la mesure où bah, tu as des organisations, tu as des structures, tu as un organigramme, tu as des gens à recruter, mais à plus grande échelle en fait, parce que bah, c'est une ONG qui compte une centaine de bénévoles, qui intervient un petit peu partout dans le monde, et effectivement ça suppose d'autres compétences. Donc pareil, je suis allé chercher des qui en fait, qui avaient des compétences que moi je n'avais pas, et qui m'aident au quotidien à organiser tout ça, le structurer, à projeter une vision, projeter des valeurs, puis à performer aussi, à être efficient. Donc bah, il y a de la formation, il y a de l'organisation, il y a de la structure, il y a du management. Donc effectivement, je n'ai pas énormément de temps à consacrer à tout ça. Donc en fait, ça m'apprend à déléguer encore plus, à faire encore plus confiance aux équipes qui sont en place, qui sont incroyables, que je salue et qui font un boulot exceptionnel. Alors, je ne sais pas si on peut donner le nom de l'ONG pour justement avoir un petit peu de soutien parce que les ONG en ont besoin.
Tu peux.
Oui, donc c'est Fund Action, F-U-N-D, plus loin, Action. Donc, on est présent un petit peu sur Instagram. Là, ça démarre tout juste. Hein. Ça a démarré en décembre 2023. Et effectivement, moi, ça m'apporte énormément, donc sur le plan humain, j'en apprends beaucoup sur moi aussi, sur comment gérer, aider les équipes à performer au mieux dans des proportions que j'avais jamais connues, parce que c'est vrai qu'on est une centaine, donc là, t'as énormément de feedback qui remonte, de data, de choses à gérer, des égos à gérer aussi, parce que finalement, il y a pas mal de choses qui passent par là aussi, et c'est une expérience humaine assez extraordinaire. Et je remercie infiniment notre conseil d'administration et les personnes incroyables qui le composent, et chacun des membres de l'équipe qui font un travail formidable et qui mettent du temps, de l'énergie et qui ont eux aussi soit une boîte à gérer, soit qui sont salariés et qui ont du temps à consacrer bénévolement à Fund Action.
Merci Alexis, j'ai eu énormément de plaisir à animer cet épisode et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à partager ce moment avec toi. D'ailleurs, si c'est le cas, faites-le nous savoir, encore une fois, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et votre plateforme de streaming préférée, l'avis également sur Apple Podcasts, et partagez cet épisode. D'ailleurs, on fera un article LinkedIn sur cet épisode. N'hésitez pas à le partager et interagir. Vous avez les liens pour Alexis qui est sous cet épisode. Et avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour toi, question que je pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu pourrais nous partager le déclic qui a fait toute la différence peut-être dans ta vie, qui a littéralement créé une transformation, je dirais même identitaire chez toi? Ça peut être une situation, une frustration, une simple phrase. peu importe, quelque chose de positif, moins positif, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Eh bien, écoute, c'est une super question, on ne l'avait encore jamais posée, je crois, et je, du coup, personne ne sait quel a été le déclic pour moi. Alors, moi, je suis tombé hyper malade quand j'étais en première année de médecine. On m'a découvert une maladie qui était potentiellement mortelle et qui m'a un petit peu cassé sur le plan physique et donc bien sûr par extension physiologique avec potentiellement un handicap sur le long terme derrière. Et je suis tombé sur un chirurgien absolument exceptionnel qui fait un travail formidable et qui m'a permis de ne pas avoir toutes ces séquelles du coup. Donc chaque jour, je remercie avec une gratitude incroyable l'univers d'avoir mis cette personne sur mon chemin et aussi de m'en être sorti. Et puis, les conséquences de ça, ça a été que ça a bouleversé en fait ma vision de la vie, ma vision de ce qu'on fait là et de pourquoi le faire. Et ça m'a permis de trouver mes pourquoi, mes grandes motivations et d'apprécier chaque instant, même quand les choses ne vont pas forcément comme je souhaite, et de relativiser énormément de choses. Donc, ouais, ça a été une épreuve, on va dire, physique et psychologique assez, assez difficile, mais qui finalement a produit des effets très positifs.
Merci Alexis.
Eh bien, un grand merci Alec, et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous écouteront. Et puis au plaisir de te voir prochainement.
Avec plaisir.